De retour sur le set, il est actuellement 8h30. Aujourd'hui, on reçoit le professeur Langlois. Donc, bonjour, monsieur Langlois.
Bonjour, bon matin.
Vous êtes professeur au département de géomatique de l'Université de Sherbrooke. Et le mois dernier, le ministre de Protection civile a annoncé un fonds du gouvernement canadien, pour vos travaux de recherche qui visent ultimement à améliorer les prévisions d'avalanche. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quoi consiste la recherche qui a reçu la subvention?
Oui, en fait, la recherche, c'est de donner des outils d'aide à la décision aux agences qui émettent les bulletins de stabilité de neige. Donc, dans l'Ouest, on peut penser à Avalanche Canada et dans l'Est, à Chic-Choc, Avalanche Québec. Et donc, c'est de pouvoir créer un outil qui va simuler et spatialiser l'information sur l'instabilité de la neige, donc le risque d'avalanche, à grande échelle. En ce moment, les patrouilles à ski se font, mais sont spatialement et temporellement limitées. Donc, on a de plus en plus d'utilisateurs de montagne qui vont de plus en plus loin, entre autres les motoneigistes, mais ils vont à des endroits où est-ce que l'information n'est pas disponible. Donc, nous, notre but, c'est de fournir un outil de modélisation donc à ces organismes-là pour les aider dans l'émission des bulletins de stabilité de la neige.
Donc, ultimement, c'est quoi les nouveaux outils auxquels nous avons accès maintenant qui vont en fait permettre d'améliorer cette recherche-là?
Bon, il y a deux volets, en fait. Donc, c'est des aspects de modélisation. Donc, il y a un modèle qui, lui prend en entrée des données météorologiques, donc, comme les précipitations, la température. Et avec ça, il va simuler un couvert de neige et le faire évoluer dans le temps. Donc, ça, c'est un aspect de modélisation. On utilise aussi beaucoup l'imagerie satellite. Donc, on peut penser à de la télédétection radar ou micro-ondes passives qui vont pouvoir informer sur certaines propriétés de la neige, donc, sur lesquelles on peut ensuite valider de un le modèle qu'on fait donc et le spatialiser et aussi dériver des indices de stabilité via satellite. Donc c'est un peu les deux aspects sur lesquels on se concentre. Ça fait quand même probablement près d'une dizaine d'années, 7-8 ans, donc on travaille dans le milieu donc à développer ces outils-là de détection de modélisation. Et ce projet-ci qui a été annoncé, c'est l'utilisation d'un modèle de précipitation, donc un nouveau produit de précipitation à grande échelle. Et donc on ne se cachera pas, meilleure est la précipitation, meilleure sera la simulation de couvert de neige et de stabilité. Donc, nous, c'est d'améliorer ce modèle de précipitation-là dans le but d'améliorer la modélisation de la neige.
Mm-hmm. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une meilleure prédiction des avalanches? Quel avantage ça pourrait amener dans les prochains mois ou prochaines années?
Ben, en fait, c'est les avalanches sont les géoristes qui font le plus de victimes, les géoristes hivernaux qui font le plus de victimes au Canada chaque année. Et on l'a vu avec la COVID, dans tout le monde, tout le monde s'est précipité dans le plein air. Et bon, le ski de haute route, le backcountry, comme on dit, il n'a fait pas exception. Donc, il y a une très grande augmentation d'utilisation de la montagne et le niveau d'expertise des gens varie énormément. Donc, c'est important qu'on puisse développer des outils de prédiction de stabilité à grande échelle pour informer le public.
Bien sûr. Est-ce que avec les changements climatiques actuels, est-ce qu'on a une nouvelle tendance, en fait, des changements au niveau des avalanches?
Oui, en fait, ce qu'on remarque dans l'Ouest autant que dans l'Est, donc dans le Chic-Choc au Parc national des glaciers dans l'Ouest, qui est notre site principal, on remarque une augmentation de l'occurrence d'événements de pluie sur neige et donc des pluies hivernales. Et les pluies hivernales, ben effectivement, vont causer beaucoup de problèmes pour les avalanches. Donc, il y a des cycles d'avalanches mouillées qu'on voit de plus en plus à cause de ces événements-là qui alourdissent la neige. Mm-hmm. Et les avalanches de neige mouillée sont beaucoup plus destructrices, donc sont très lourdes et peuvent endommager l'infrastructure dans l'Ouest comme la route, les chemins de fer. Donc c'est ce qu'on remarque, si on veut, de manière générale en Amérique du Nord.
Mm-hmm. C'est tout de même remarquable d'avoir des travaux de niveau centré ici en Estrie. Avons-nous des infrastructures spécialisées qui permettent ces recherches à l'université même?
Ben, à l'université même, il y a on est basé, donc le groupe de recherche sur les milieux polaires, donc le GRIMP, on est basé au département de géomatique. Et en termes d'infrastructure, c'est pas forcément une infrastructure spécifique, donc c'est tout simplement d'avoir accès à de l'instrumentation spécialisé de la neige. Donc, c'est pas simplement de prendre une épaisseur de neige. Donc, quand on prend des mesures, nous, sur le terrain, on a des spécialisés qui vont regarder au niveau de l'infrastructure, qui vont regarder la résistance. Donc, on a accès à ces infrastructures-là ici, qui sont des instruments spécialisés de terrain. On utilise aussi beaucoup les drones, de plus en plus. Et donc, c'est l'infrastructure qu'on a. Donc, c'est pas forcément un local laboratoire. Notre laboratoire, ouais, c'est le terrain, c'est la montagne. mais on a effectivement accès à des instruments spécialisés. Ouais.
C'est sûr qu'avec ces instruments-là et puis la subvention, on va pouvoir véritablement améliorer tout ce qui est l'analyse des avalanches, donc c'est toujours très intéressant. J'avais une question assez simple, un peu stupide entre guillemets, mais pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas vraiment ce qui cause une avalanche, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui cause réellement une avalanche?
Bon, il y a deux sources, hein. Donc c'est soit une avalanche naturelle ou une avalanche non naturelle. Donc les avalanches naturelles peuvent être causées par simplement des tempêtes qui vont développer des corniches. La corniche va décrocher avec le poids et va tomber sur la neige et va créer une avalanche. Et on peut avoir les motoneiges ou les skieurs ou les planchistes qui vont créer aussi une avalanche. Donc souvent une avalanche, c'est dans un couvert de neige de, disons, 2 mètres, 3 mètres d'épaisseur. Donc il y a une couche faible à quelque part. Donc dans le profil vertical, il y a une couche faible sur laquelle l'avalanche va se déclencher. Donc, ça prend toujours un événement déclencheur qui va causer, ce brise-cisaillement-là sur la couche faible. Donc, c'est, comme on dit, soit naturel ou soit causé par quelqu'un.
D'accord. J'avais une toute dernière question. Je voulais, en fait, est-ce qu'on peut dire que c'est pertinent d'avoir une subvention en recherche en avalanche lorsqu'on est en Estrie, surtout qu'on est entouré de beaucoup de montagnes et de beaucoup de pistes de ski? Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est véritablement pertinent de nos jours de faire de la recherche en avalanche dans cette région-là?
Bien, en Estrie, c'est pas un endroit qui est propice à avoir des avalanches. Donc, on n'a pas d'avalanche forcément en Estrie, mais on peut penser à tout près d'ici, aux États-Unis, puis le Mont-Washington, par exemple, qui ont un centre d'avalanche.
Okay, oui.
Donc, la pertinence n'est pas liée forcément à l'avoir en Estrie, mais pour le Québec. Donc, au Québec, dans les Chic-Chocs, il y a effectivement des avalanches à chaque année. Il y en a des dizaines, il y en a des milliers dans l'Ouest canadien. En fait, il y a à peu près statistiquement 1,5 million d'avalanches par année au Canada. Donc, c'est pertinent dans ce sens-là de pouvoir étendre ces connaissances-là au territoire avalancheux du Canada. Mais l'Estrie n'en fait pas partie forcément, mais juste au sud, au Mont-Washington, absolument.
D'accord, donc c'est toujours très bon à savoir qu'on n'est pas, au centre des avalanches ici, pour ceux qui ne le savent pas, évidemment. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Langlois. C'était très intéressant de discuter avec vous de ces recherches-là et de ces subventions. Pour ceux qui sont intéressés à aller en savoir plus, vous pouvez directement aller sur l'article qui a été publié sur le site de l'Université de Sherbrooke dans la rubrique « Actualités et nouvelles ». Donc, vous pouvez en apprendre un peu plus en lisant cela. Et évidemment, vous pourrez réécouter notre émission en rediffusion sur notre site cefac.ca. Donc, merci beaucoup, Monsieur Langlois, d'avoir pris le temps de nous discuter avec nous. Et je vous souhaite une bonne journée.
Ça fait plaisir. Bonne journée.